Alors, à présent, j'aimerais rentrer dans le message d'aujourd'hui. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas pu être là au week-end d'église. Donc, je vais faire un résumé du message qui a été communiqué lors du week-end d'église. Message qui s'intitulait « L'appel du cep ». L'appel du cep, ce n'est basé sur Jean chapitre 15, quelques premiers versets. Ce n'est rien d'autre que l'appel de Jésus à son église. Et je vais faire un résumé parce qu'aujourd'hui, j'aimerais faire la partie 2 de ce message-là. Donc, très brièvement, je vais y aller assez rapidement. Quelques infos vont être communiquées, présentées sur l'écran. L'appel du cep, petit résumé en 5 scènes. Dans la première scène, nous avons vu en Ésaïe chapitre 5, nous avons vu que Ésaïe 5 nous parle d'une vigne qui, malgré les meilleurs soins du vigneron, ne produit pas de fruits et mérite d'être délaissée. Une vigne improductive. La scène 2, c'est Jésus qui raconte une histoire, qui nous expose le portrait d'un juste héritier qui, au lieu d'être accueilli dans son vignoble avec louange, sera jeté dehors et mis à mort. Donc, il nous raconte une histoire d'un vignoble, il envoie son héritier. Matthieu 21, vous pouvez aller retourner pour lire l'histoire. Cet héritier va être maltraité, tiré en dehors du vignoble et mis à mort. Évidemment, ça fait allusion à Jésus. Ensuite, nous avons vu Jean chapitre 12, où on voit Jésus qui se compare à ce grain de blé qui, une fois tombé et mort en terre, porte beaucoup de fruits. Et c'est ce Jésus qui est mort et qui aujourd'hui encore porte du fruit des siècles plus tard. Ce qui nous a amené à l'évangile de Jean, cette fois-ci chapitre 15, celui qui nous concerne, où il y a comme un résumé. On voit à travers Jean 15 que contrairement à la description d'Ésaïe, Jésus est ce plant en bonne santé, ce plant productif. Et à l'image de l'histoire de Matthieu, Jésus est cet héritier qui a été maltraité à mort. Et Jésus est effectivement ce grain de vie qui est prolifique, qui donne de la vie. L'appel du cep, c'est l'appel de Jésus à son Église. Trois choses qu'on a vues dans ce message passé. Nous avons vu que dans cet appel-là, il y a un appel à l'intimité, une intimité avec Dieu, un appel à une intimité avec Jésus, un appel à une vitalité, à vivre cette vie. Or, lorsque nous sommes en Jésus, il y a la paix, la joie, l'amour, les dons naturels et surnaturels, tout est en lui. Il y a une vitalité, il y a une énergie. Et de cette vitalité, il y a une productivité, il y a un résultat, il y a quelque chose. Et donc, c'est les trois choses que nous avons vues, un appel à l'intimité, à la vitalité et un appel à la productivité. Il y a quatre pensées fortes qui se sont dégagées de ce message-là lors de ce week-end. Nous savons bien que, sans être un expert, des feuilles, des branches, avec le fruit, tu peux identifier l'arbre. Le fruit révèle l'identité de l'arbre. Donc, la pensée forte est la suivante, c'est que le fruit de notre vie est appelé à révéler l'arbre de la vie plutôt que l'arbre, notre arbre généalogique. Le fruit de notre vie n'est pas là. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes appelés à faire en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église, n'est pas là pour dire « voici, j'appartiens à telle famille, regarde comme nous, on est bons et on est capables. Ah, moi, j'appartiens à telle église, regarde comme notre église, elle est comme ceci. » Le but est que tout ce que nous faisons pointe vers l'arbre de la vie. Jésus est appelé aussi dans le Nouveau Testament comme étant cet arbre de vie qui, ça le dit, nous donne la vie. Première pensée forte. La deuxième, c'est que le fruit recherché par Dieu n'est pas un fruit de performance, même si on parle de productivité, mais c'est un fruit de ressemblance. Ce que Jésus nous appelle, ce n'est pas de performer. Alors, oui, il nous appelle à produire, mais ce produit-là, le fruit de ce produit-là, ou le produit de ce fruit, est un fruit de ressemblance. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Et alors que je tends à cette aspiration à ressembler à Jésus, évidemment, il y a une, entre guillemets, performance. Il y a quelque chose qui va ressortir de là. Donc, et ça, c'est vraiment important. Notre but, ce n'est pas de performer, d'accomplir des exploits. Notre but, c'est de ressembler toujours plus à Jésus. Nous avons vu comme l'avant-dernière pensée qui est forte, c'est quel que soit notre âge, notre santé, notre statut social, nous sommes tous appelés à porter du fruit. Que le plus âgé ne dise pas « c'est trop tard pour moi pour porter du fruit », que le plus jeune ne dise pas « c'est trop tôt pour moi pour porter du fruit, allez-y ». C'est ce que nous avons tous. Peu importe notre condition de vie, on est appelé à porter du fruit dans notre réalité de vie personnelle. Dernière chose, qui est, je pense, l'une des pensées les plus fortes, est le fait que porter du fruit est la raison d'être du sarment. Le sarment, c'est nous, c'est les branches, c'est nous. C'est ces vies rattachées à Jésus. Porter du fruit, c'est notre raison d'être. Rester attaché à Jésus, c'est notre responsabilité. C'est vraiment important de saisir ça, parce que souvent, on se met énormément de pression pour dire, il faut que je fasse, il faut que je produise, il faut que... Wow, j'ai jamais vu une branche dire, hey, il faut que je fasse, il faut que... Non, sa responsabilité de la branche, c'est de rester attaché au cep, au plan. Alors évidemment, si au cours de ma vie, je m'aperçois que, puisque c'est ma raison d'être de porter du fruit, qu'il n'y a pas de fruit, il y a une remise en question qui se fait, mais le travail se fait sur ma responsabilité de me reconnecter à Jésus pour qu'un fruit puisse ressortir. Peut-être que plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, sommes dans une étape de notre vie où on a besoin d'être reconnectés à Jésus, renouvelés dans notre relation avec lui. L'histoire du vignoble, en fait, l'image du vignoble principalement, c'est une image qui nous appelle à avoir une relation avec Dieu, une relation avec Jésus. Alors, je vais poursuivre aujourd'hui, après avoir vu l'appel du cep, j'aimerais qu'on puisse regarder à la réponse du sarment. Il y a un appel, demeurez en moi. C'est un ordre, oui, mais quelque part, il y a un appel vivifiant, demeurez en moi. Quelle réponse pouvons-nous donner? Alors, on le sait, c'est un appel à demeurer, tout est dit, à demeurer intime, à demeurer dans cette intimité, à demeurer vivant, à demeurer productif. Et la question, notre réponse à son appel consiste à savoir comment demeurer en lui. Wow. Jean chapitre 15, si on le lit comme ça, c'est un des passages les plus pesants qu'il peut y avoir sur la vie d'un croyant, tellement que c'est exigeant. Tu dis, wow, comment je peux faire? C'est pas possible. Et nous sommes appelés à donner une réponse. La réponse du sarment, c'est la réponse de ta vie à cet amour exprimé en Jésus. Si on prend Jean chapitre 15, on va le voir plus tard. Mais je vais vous lire juste ce verset-là. Quand on lit, « Vous êtes mes amis si vous faites... » C'est au verset 14, Jean 15, 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous allez le voir plus tard dans la diapo. Si on prend juste ce passage-là, et qu'on le sort hors contexte, c'est comme « Wow, attends, imagine un instant, génération Facebook, tu fais une demande d'amis. Puis au lieu de dire « un tel vous a accepté comme ami », là, tu vois une réponse dans ta boîte privée Messenger. « Je veux bien que tu sois mon ami. » À condition que tu fasses ce que je te commande de faire. Oh, j'annule la demande. Ça, c'est plus de l'amitié, c'est de l'esclavage. Alors, quand on lit ce passage, c'est Jésus qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et toute une amitié, c'est lourd. Et c'est là qu'on a souvent un problème, c'est qu'on prend des textes bibliques comme ça, même dans un même chapitre, on les extrait du contexte, où on oublie à quel verset précédent ils sont rattachés, et là, ça devient un poids sur notre vie. Pourtant, nous avons une réponse à donner. Quelle réponse allons-nous donner en tant que sarment, en tant que membre, en tant que branche raccrochée au cep? J'aimerais vous présenter 4 réponses possibles. Il y a la réponse en mode légalisme. Prochaine diapo. La réponse en mode légalisme, donc, l'appel, c'est « demeurez en moi hein. ». Avant d'aller là-dedans, je vais juste vous dire un peu les 3 points qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a 3 choses, en fait, que ce message va nous appeler, c'est de donner une réponse qui ose s'avouer perdant. Comment répondre à cet appel? En osant s'avouer perdant. Deuxièmement, en osant s'abandonner à lui. Et troisièmement, en osant s'associer à son projet. Et je sais qu'il y en a plusieurs, peut-être vous êtes surpris, mais il me semble que la réponse à cet appel, c'est « il faut que je prie, je lise ma Bible, j'aille à l'église, il faut que... » Comment ça, s'avouer perdant? 4 réponses possibles. La réponse en mode légalisme à « demeurez en moi et vous porterez du fruit », c'est « je dois, car c'est écrit « je dois », ça c'est le mode légalisme. Demeurez en moi et vous portez du fruit, et si vous ne demeurez pas en moi, portez pas de fruit. Alors ça c'est l'attitude légaliste. Je dois car c'est écrit. Je dois car ça a été prêché. Je dois parce que c'est écrit dans un livre qui fait allusion que c'est dans la Bible. Je dois. Ça c'est légaliste. Il y a la réponse en mode moralisme. Il faut. Il faut parce que c'est bien. Parce que c'est la bonne chose à faire de demeurer en Jésus, c'est la bonne chose à faire d'aimer son prochain. C'est le moralisme, le bien et le mal. Il faut que, je dois parce que c'est écrit, il faut parce que c'est bien. Et il y a enfin la réponse en mode réalisme. Je ne peux pas, parce que c'est trop dur. Parce que pour celui qui est en mode légaliste, tu mets ton standard ici, et parce que tu obéis une loi, tu n'arrives jamais. Ou tellement rarement que plus souvent qu'autrement, ton sentiment de toi-même est un sentiment profond de déception parce que tu n'arrives pas à rencontrer ce qui est écrit dans la Bible. Tu es en mode légaliste. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette... Et les modes légalistes, je dois mettre de soi, je suis un bon chrétien. Chrétien, je suis maître, je dois, j'obéis à la loi, j'aime mon prochain et c'est écrit. Mais à un moment donné, il y a une dépression qui prend place parce que tu t'aperçois que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Et le mode moralisme, c'est à peu près pareil, c'est le même principe. Je sais que c'est bien, il faut que je fasse, mais à un moment donné, tu dis, l'apôtre Paul a fait face à ça. Le bien que je dois faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne devrais pas faire, je le fais. Et là, tu frappes un autre mur, moralisme. Et tu souris, tu dis, ah, ouais, c'est bien, il faut que je fasse, oui, c'est juste. Mais il n'y a pas de joie, c'est un sourire, c'est un chrétien vinaigré. Hein? Puis à un moment donné, on frappe tous, un jour ou l'autre, on frappe la réponse en mode réaliste. Réalisme, je ne peux pas, parce que c'est trop dur. Mais merci Seigneur, parce qu'il y a la réponse en mode christianisme. Parce que le christianisme n'est pas du moralisme. Le christianisme n'est pas du légalisme. Le christianisme, c'est Jésus venu vivre au milieu de nous, rempli de grâce et de vérité. Et la réponse en mode christianisme, c'est celle-ci. C'est plus je, il faut, tu, je dois, etc. C'est celle-ci. Tu as accompli ce que tu devais parce qu'il le fallait, car je ne le pouvais. Comment répondre? L'appel, la réponse du serment à cet appel du cep à vivre dans cette intimité, c'est pas je dois, c'est pas il faut, ce n'est plus non plus je ne peux pas, mais c'est ok, tu m'appelles à répondre, Seigneur? Ok. À la lumière de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as vécu et montré comme exemple, voici ma réponse. Tu as accompli ce que tu devais parce qu'il le fallait, car je ne le pouvais pas. Je me repose en lui. On est appelé à oser s'avouer perdant, et je ferai vraiment très court là-dessus, mais ça, c'est une des pires choses, en fait, qu'on arrive à avouer. S'avouer perdant. Et ça fait écho à Jean, chapitre 15, verset 5. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je n'ai jamais vu un sauveteur sauver quelqu'un qui nageait bien ou qui pensait nager bien. À un moment donné, il y a un cri dans la mer, « Au secours, SOS !» ou dans le fond de la montagne, l'hélicoptère arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel. « J'en peux plus, je suis perdu, j'ai les deux jambes cassées, venez à mon secours. » Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il va le dire lui-même, il n'est pas venu pour ceux qui se pensent en bonne santé, il est venu pour ceux qui savent être pécheurs, perdus, sans lui. Alors, première étape, peut-être aujourd'hui, tu dis, mais comment faire pour me rattacher? Comment faire pour me recrocher? Peut-être tu vas trouver ça bizarre. Ma réponse ne sera pas, retourne chez toi, lis ta Bible. Ma réponse ne sera pas, prie un peu plus. Ma réponse ne sera pas, en rentrant, mets un CD de louange. Pas du tout. Ma réponse sera, commence par oser t'avouer perdant. Crie à lui. Seigneur, j'en peux plus. De marcher sous cette loi, sous ce moralisme, par mes propres capacités. Oser s'abandonner à lui. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je crois que chacun d'entre nous ici, nous avons besoin d'apprendre à nous abandonner dans les bras de Dieu. J'ai, à la fin du week-end qu'on a passé ensemble, j'ai commencé à mettre par écrit, il n'y a pas beaucoup de pages, une dizaine de pages là, qui ont commencé à se coucher sur le papier. J'ai commencé à mettre par écrit le message que j'ai communiqué dimanche lors de ce week-end. J'aimerais vous en lire deux paragraphes. Parce qu'en écrivant, j'ai encore réalisé Jean chapitre 15, verset 9, cet amour de Dieu pour moi, et j'en revenais juste pas. Ma prière, c'est « Seigneur, fais vivre ce que tu m'as fait vivre récemment. Communique ce que je ne peux pas communiquer. » Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et je vais vous lire deux paragraphes, et ça va faire écho à Ésaïe 5 de cette vigne improductive, et à Matthieu 21 de cet héritier qui rentre dans le vignoble et qui va se faire tuer. Ça commence pas comme ça, mais le paragraphe en question, c'est celui-ci. Nous avons beau savoir que la vigne d'Ésaïe fait référence à des gens précis, soit le peuple de Dieu. Il n'y a pas de comparaison acceptable ni de commune mesure entre la mort d'un fils et le choix volontaire d'un peuple à manifester l'injustice et la méchanceté. Pourtant, le CEP de Jean 15 proclame catégoriquement que tout comme le Père l'a aimé, lui aussi nous aime. Nous, cette vigne au goût amer. Wow! Si vous n'avez pas capté ce que Jésus est en train de dire, alors relisez et relisez encore Jean chapitre 15, verset 29. Et ce, jusqu'à ce que votre cœur soit ébranlé par ces paroles émanant du CEP, c'est-à-dire Jésus. Sans cette compréhension à l'égard de la passion amoureuse que Jésus a pour nous, nous ne saisirons pas pleinement en quoi consiste le type d'amour dans lequel il nous a appelés à demeurer. Le Fils, qui soit dit en passant, s'associe au cep de la vigne plutôt qu'à l'héritier, n'est pas en train de dire qu'il nous aime presque, à peu près, ou des fois comme le Père. Non, il dit tout comme le Père. Waouh. J'ai hésité à vous lire le deuxième paragraphe que je m'apprête à lire. Parce que je sais que certains d'entre vous avaient vécu cette expérience et je vais quand même vous lire. L'idée, ce n'est pas de raviver des douleurs passées, mais c'est de nous faire réaliser l'amour du Père. Parce que tout part de là. Et il s'adresse à ceux qui n'ont pas vécu cette expérience et à ceux qui l'ont vécu. J'écrivais ce passage et je priais pour toutes ces personnes sur la surface de la terre qui ont vécu, ou ceux que je connais du moins. Alors je vais poursuivre. Faisons l'effort de nous mettre à la place d'un parent ayant perdu son enfant. Fait allusion à Matthieu 21, qui a perdu son fils dans le vignoble. Faisons l'effort de nous mettre à la place d'un parent ayant perdu son enfant. Le vide constant de son absence et les souvenirs récurrents de ses moments de fierté à l'égard de son bambin habitent les virages de son quotidien. L'unique expression d'amour qui lui reste pour son enfant effacé du paysage sont ses larmes qui n'ont plus de bras pour étreindre, plus de voix pour parler, plus de jambes pour courir avec, plus d'oreilles pour recevoir le timbre de la voix de cet enfant qui n'est plus. Tel est le cœur du Père envers Jésus, son Fils. Et Jésus dit qu'il nous aime de la même façon et avec les mêmes tripes que son Père l'a aimé, sans la moindre condition de notre part, ni ombre de variation d'humeur de sa part. Il nous aime tout simplement, tout comme le Père. Et c'est dans cet amour-là, dans cette intimité exclusive, qu'il nous appelle à demeurer. On lit vite, hein. Jésus nous a aimés comme le Père nous a aimés. Puis on trouve ça merveilleux parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Mais pour ceux qui l'ont vécu, mettons-nous à la place de ce père qui a perdu ce fils, qui a juste des larmes pour s'exprimer, il n'a plus rien d'autre. Puis Jésus dit, comme le Père m'a aimé, vous, cette vigne amère et improductive que vous étiez sans moi, je vous ai aimé. Waouh! Et je crois que c'est dans cet amour-là, il nous appelle, c'est dans ce niveau d'intimité, demeurez en moi et demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon commandement, dans mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Il ne dit pas demeurez dans ma loi, il ne dit pas demeurez dans mes principes, demeurez dans mes écrits, demeurez dans mon amour. Et on a besoin de comprendre la puissance de l'amour de Dieu parce que tant qu'on n'aura pas saisi ça, eh bien notre vie chrétienne sera limitée à un certain niveau. On a besoin de plonger dans cet amour divin sans, on n'a aucun mérite, sans aucune condition, sans qu'est-ce que je pourrais donner en retour, il y a une étape pour ça, mais la première chose, et nous souvent c'est ce qu'on fait, on réalise l'amour de Dieu et on veut tout de suite aller à l'étape de faut que je donne. Oui, ça c'est, si vraiment c'est le fruit d'un amour profond, ok, c'est super, mais si c'est juste faire pour faire, faire parce que c'est écrit, faire parce que c'est dit, faire parce qu'on est motivé par la culpabilité, nous sommes dans le champ, on est complètement à l'ouest. Ce n'est plus une cause à effet. Et c'est dans cet amour-là, il dit, demeurez en moi. Et la question que je te pose aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu demeures?
dans la loi, dans les principes, dans ce que les gens disent, où tu demeures dans l'amour de ce Père qui a aimé son Fils jusqu'à pleurer, jusqu'à... Il n'y a pas de mots pour décrire. Est-ce qu'on peut demeurer dans cet amour? Peut-être que certains d'entre nous sommes loin du Seigneur ou se sommes éloignés. Peut-être que le domaine dans lequel tu demeures dans du compromis, tu demeures dans de la culpabilité, tu demeures dans de l'autoflagellation, tu demeures dans les regrets du passé. Mais Jésus te dit, demeure dans mon amour. Je t'aime inconditionnellement. J'ai tout fait pour toi. Viens juste demeurer en moi, viens en moi. Et après, il y a un cycle naturel qui dit, tout comme le Père nous a aimés, Jésus nous aime. Et plus tard, on va le voir, tout comme Jésus nous aime, nous sommes appelés en retour à aimer notre prochain comme Jésus a aimé. Il y a comme un tout qui prend place. Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Voici, il y a comme une association, il y a comme une identification qui se fait. « Je vous ai dit cela afin que ma joie... demeure en vous et que votre joie soit complète. » Cette joie-là, ce n'est pas la joie d'un père qui est content de voir son enfant obéir et marcher dans ses voies. Oui, même si ça fait partie d'eux, mais cette joie-là, c'est beaucoup plus qu'une joie de « je fais la bonne chose, il est fier de moi parce que je fais la bonne chose ». Cette joie-là est une joie qui est la sienne, c'est la joie de Jésus, afin que ma joie, au même titre qu'il va dire « je vous donne ma paix », non pas comme le monde donne, mais « je vous donne ma paix », que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Cette joie-là, c'est en fait, quand on lit, c'est pas à l'écran, mais Proverbe 31, verset 6 nous dit ceci. « Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume. Qu'il boive et oublie ainsi sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. » Ça, c'est Proverbe 31, verset 6. « Donnez des liqueurs fortes à celui qui est dans l'amertume, à celui qui va mourir. » Et Cantique, chapitre 1, verset 2 dit « Mais son amour est meilleur que le vin. » Son amour est meilleur que le vin. Cherche pas à t'enivrer pour noyer ton amertume, pour noyer tes soucis, pour noyer ta... Tu te sens mourir en dedans, puis tu te donnes à toutes sortes de choses et d'activités pour oublier. Non! Son amour est meilleur que le vin. Son amour est encourageant, fortifiant. Et l'amour de Christ n'anime pas les désirs de la chair. C'est un amour qui est pur. Et c'est de cette joie-là qu'il parle. C'est de cette joie-là. Il dit, demeurez dans mon amour et ma joie sera complète en vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul, alors qu'il était enchaîné, emprisonné, battu jusqu'au sang et les fers aux pieds, pouvait écrire en plein dans ce moment de non-sens et d'inhumanité dans sa prison, pouvait écrire Philippiens, l'épître aux Philippiens, dit, soyez toujours joyeux. Alors qu'il écrit ça, il a les deux pieds prisonniers, il a le corps meurtri par la persécution. Et il va écrire, soyez toujours joyeux. Hein? C'est cette joie-là, c'est la joie de Jésus en nous qui, meilleur que le vin, nous aide à passer à travers les épreuves et nos propres défis intérieurs. Et Jésus va dire tout, et là encore, on voit tout le motif de Jésus, va dire, tout ça je vous donne, ces commandements-là, il fallait que je voulais vous les dire pour que votre joie soit complète. Voyez-vous, on est loin de, hey, il faut que, hein, maintenant que tu me connais, tac, 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 ça marche comme ça. Hein. Voyez-vous le cœur du Père, le cœur de Jésus, c'est une autre dimension complète, et ça c'est l'Évangile. Quand Jésus dit que la Bible dit que la vérité libère, un des aspects, c'est ça. C'est cet amour qui libère, cette vérité qui libère. Voici, verset 12, mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On était au conseil dernièrement cette semaine et quelqu'un... partageait le texte 1 Jean chapitre 5 verset 3 et ensemble on essayait de réfléchir à, parce que le texte disait en effet l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements, or ses commandements ne représentent pas un fardeau ou ne sont pas pénibles. Mais comment est-ce que, honnêtement là, comment est-ce que ces commandements ne peuvent pas être pénibles ou ne sont pas un fardeau? Puis on cherchait, on regardait, puis là j'ai réécrit dernièrement sur le groupe WhatsApp, je pense que j'ai trouvé le secret. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense. En tout cas, un début. Puis c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ce n'est pas ça que je dis. Vous allez comprendre. En fait, les commandements de Jésus ne sont pas un fardeau pénible parce que demeurer en lui revient à réussir à porter plus lourd que soi dans l'eau. Si je prenais n'importe qui ici, même la personne la plus légère,
et que je la porterai, si j'arrive, c'est une chose. Mais si on fait rentrer dans une piscine, je peux porter le plus lourd d'entre vous ici, parce que je demeure dans l'eau. Oh, oh. Et Jésus dit, demeurez en moi. J'en parle et ça bouleverse mes tripes. Et là, je comprends pourquoi il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements sont pénibles à partir du moment où je sors de sa grâce, de sa présence, et que je veux le faire moi-même. Moi, je veux être un bon chrétien cette année. Moi, là, cette année, je vais marquer des points pour le royaume de Dieu. Ouais, tu vas te marquer la joue pleine de cicatrices parce qu'à force de tomber, ouais. Mais quand tu rentres à la présence de Dieu, c'est comme rentrer dans une piscine et porter un poids tellement lourd que tu ne pourrais pas le porter si tu étais en dehors de l'eau. En fait, je suis porté par celui qui a tout porté et qui me porte encore. Yes, sir! Jésus a tout porté. Il a porté tes incapacités et les miennes. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos maladies. Il a porté nos faiblesses de caractère. Il a porté nos péchés. Il a porté nos pires pensées. Il a porté nos pires habitudes. Et il dit, demeure dans mon amour parce que par toi, tu ne peux pas. Et c'est ça l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Il y a de quoi être excité. Et il est là. Et là, on a besoin juste de, Seigneur, oui, j'accepte. Oui, je veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Porte-moi, prends-moi. Fais tout ce que tu as à faire. Et là, ça devient tellement plus facile. Je dis pas que c'est hyper super facile parce qu'on a un quotidien à faire face. Et notre défi, c'est de demeurer, d'habiter constamment. Et c'est là qu'on n'arrive pas. Mais quand le seul moyen d'y revenir, c'est « Ok, Seigneur, c'est par ta grâce. » Je ne parle pas d'une grâce facile qui nous permet de faire n'importe quoi. Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. « Oh, Seigneur, même, donc je peux vivre comme un diable sur la terre. » Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Osons, je vais terminer. S'associer à son projet. Et alors que je suis dans cet amour-là, là vient cet appel-là, ce commandement. Faites. En fait, quand on lit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande », on pourrait dire « Vous êtes mes amis lorsque vous faites ce que je vous commande ». Ou « Lorsque tu ne fais pas ça, tu ne peux pas prétendre être un ami ». C'est comme dire être un expert de ski alpin, tu t'en vends partout, puis quand l'hiver arrive, tu viens le temps de mettre tes souliers, tu dis à tes amis, je vais prendre la piste ici, celle où tout le monde est comme ça. OK, là, il y a un manque de cohérence. Tu es en train de dire que... Alors moi, je connais très bien telle personne, et quand tu commences à parler avec, tu aperçois qu'en fait, pas tant que ça. On peut pas... Il est en train de dire, si tu es en train de faire ce que je te demande de faire, alors tu es vraiment un ami. On est de la même tribu, on est du même camp, qui se ressemble, ensemble. On regarde ce que tu fais, on dit, oh, ça ressemble à Jésus, ça pointe à l'arbre de vie. Mais si on prétend avoir la foi, prétend être chrétien, on reste dans cet amour-là, je prétends avoir découvert cet amour-là, mais que je vis complètement à l'inverse, tu te penses un ami, mais... Tu as du chemin à faire, celui de revenir à moi, parce que ton comportement est vraiment pas mon image. Tu n'as pas compris, là. Alors, il y a une place pour la vérité, mais une vérité qui est portée par la grâce de Dieu. On est appelé à refléter, avoir une cohérence, un reflet fidèle du portrait original qui est Jésus. Jésus est venu transformer des vies et non les formater. Et souvent... Notre réflexion, c'est, tu dois quelqu'un vient à peine de connaître le Seigneur, mais là, il faudrait qu'il rentre dans l'église, transformé dans son habillement, dans son langage, dans ses pensées, dans ses habitudes, tac, tac, tac. Mais voyons, s'il a connu Jésus quand même, il faudrait que... Ah ouais, il faudrait qu'il soit comme toi? Ah non, alors non, j'ai pas envie d'être comme toi qui juge. Qui exige ce que Jésus n'a pas exigé. Là, il faudrait que tout le monde soit comme le meilleur chrétien de l'église, tac, tac, tac. Ça, c'est du formatage. C'est pas de la transformation. Jésus transforme. J'arrive dans son amour tel que je suis. Hein, il y a un chant bien connu, tel que... Bon, je ne chanterai pas parce que vous allez partir. Tel que je suis, je viens à toi. Mais Jésus, tel que nous sommes, il nous accepte parce qu'il nous aime tellement, mais il nous aime
trop pour nous laisser comme on est. Et alors que nous sommes dans cet amour de vivacité, de vie, de relation avec lui, il y a des choses qui... Mon cœur change, pas parce que je dois, mais son amour me transforme. Tout en gardant ma personnalité, mon caractère, il peaufine, il améliore, enlève les points faibles, renforce les points forts. Et là, on a un Philippe qui ressemble à Jésus, tout en étant encore un Philippe depuis, comme il était né sur cette terre avec son caractère, son tempérament. Transformé, pas formaté, transformé. Et souvent nous-mêmes comme « Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme je vous ai aimé. » Jésus n'a jamais mis une pression sur toi pour dire « Il faut que tu fasses. » Il est venu « Viens, viens, viens. Je vais te cajoler. Je vais prendre soin de toi. Et de temps en temps, je vais te donner un coup de pied pour dire « Hé, vas-y, décolle. Avance. Allez. C'est bon, là. Maintenant, tu matures un peu. » Comprenez-vous? Et c'est là qu'on arrive à oser s'associer à son projet, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voyez-vous encore le cœur du Père? Jésus a découvert quelque chose dans son Père. Il dit « Faut que je leur fasse connaître, mes bien-aimés, il faut que je leur fasse connaître parce qu'ils vont être tellement être heureux, ça va changer leur vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est ce que je vous commande, de vous aimer les uns les autres. » Mais encore une fois, on reste accroché à dans son amour. Cet amour qui m'aime est un amour aussi exigeant à marcher comme lui a marché, à s'associer à son projet. Marcher comme lui, c'est accepter de souffrir. Il n'y a pas de vie sans mort à soi. Il n'y a pas de vie spirituelle sans une mort à soi. C'est ce que Jésus a vécu. Il est mort en terre pour porter du fruit. Il y a des choses dans notre vie où on a besoin de renoncer. Et là, on n'est pas dans le « il faut, tu dois ». Seigneur, tu as tellement fait. Je te le donne, je renonce dans cet état d'esprit-là. Et là, tu portes un fruit. Un fruit qui l'honore. J'aimerais inviter les musiciens. J'aimerais qu'on puisse terminer. Je pense qu'on a chanté plusieurs chants. Peut-être le dernier peut être approprié. Celui qu'on n'a pas chanté, je ne sais pas lequel était. J'ai vu la liste, mais je ne me rappelle plus. Il fait chaud. Vas-y. Tu peux le reprendre. Ouais, c'est parfait. Alors, comment est-ce que vous... La réponse du serment, est-ce que c'est une réponse légaliste? Je dois? Est-ce que nous voulons continuer à répondre en mode moraliste? Il faut, parce que c'est bien. Ou est-ce qu'on va passer notre vie avec ce réalisme de dire « Ah, je ne peux pas. C'est bien beau tout ça, mais je ne peux pas. C'est trop fort. C'est trop dur pour moi. » J'aimerais qu'on puisse chanter le nom de ce Seigneur merveilleux. Tu accomplis ce que tu devais parce qu'il fallait, parce que je ne le pouvais pas. Et ça, c'est la colonne vertébrale de nos vies chrétiennes, c'est sa grâce. Une grâce qui nous permet de vivre dans la vérité. Une grâce qui nous permet de refléter son comportement. Une grâce qui nous permet de supporter l'insupportable, de faire l'infaisable, de porter ce qu'on ne peut pas par nous-mêmes. Demeurer dans l'océan de son amour et ses commandements ne seront pas pénibles. Est-ce qu'on peut se lever? Dire Seigneur, et je vous encourage chacun, pas seulement ce matin, mais au long de cette semaine, à vous abandonner dans son amour. Je crois qu'il y a des cœurs ici, il y a des gens, tu as besoin de craquer devant Dieu. Il y a des personnes ici, vous êtes dans un carcan, dans une loi, dans une exigence personnelle. Jean chapitre 15, verset 9, « Il t'a aimé comme le Père t'a aimé. » Je crois sincèrement qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de chrétiens, de croyants, tu as besoin de craquer dans la présence de Dieu. Tu as besoin de réaliser, craquer devant son amour, dire « Seigneur, fais-moi réaliser à quel point tu m'aimes. » Et ça, je ne peux pas vous le faire à votre place. Mais si cette semaine tu rentres et tu prends un temps, encore une fois, pas dans un état d'esprit, il faut que tu dois, dis « Seigneur, je veux me rapprocher de toi. » Là, ma tête a reçu des informations, des choses à ton sujet. Mais mon cœur, il y a comme quelque chose qui n'est pas... Le lien ne se fait pas, là, le courant ne se passe pas. Alors, prends du temps dans le silence, dans la nature, dans ta voiture, dans ton bureau, où tu veux, assis, debout, couché, peu importe. Prends un temps. Un temps où il y a juste toi, puis le Seigneur. Puis juste ce verset, je ne te demande pas de lire 15 chapitres, juste ce verset. « Comme le Père t'a aimé, Jésus t'aime. » Et je te garantis, j'en suis convaincu, que le Saint-Esprit va se déverser en toi, il va te voir casser, t'effondrer. Tu n'auras plus besoin de mettre un masque pour avoir l'air fort, forte, etc. Parce que Jésus est vivant. Adorons-le, merveilleux, je pense. Hein? Adorons-le.
je veux te dire merci. On veut te dire merci, ton nom est si merveilleux. Seigneur, merci pour ton Église. Merci, Seigneur, de nous avoir attachés à toi. Merci, Seigneur, pour ton Évangile, pour cette bonne nouvelle que tu nous as donnée. Puisses-tu, Seigneur, durant ces prochains jours, cette prochaine semaine, Seigneur, nous porter. Nous voulons rester en toi. Nous voulons être habités par toi et habités en toi. Et Seigneur, que celui ou celle qui est loin puisse se reconnecter à toi, puisse simplement s'avouer perdant, puisse s'abandonner. Seigneur, je prie que nos cœurs soient toujours plus transformés à ton image, que nous puissions, Seigneur, marcher dans cette vérité, dans ces commandements auxquels tu nous appelles, avec ton amour qui est ce moteur. Seigneur, amène-nous à la prochaine étape. Je te remets chaque journée de cette semaine. Sois celui qui visite nos moments intimes avec toi. Sois celui qui se révèle à travers ce que nous allons lire ou entendre. Sois celui qui agit, Seigneur Jésus. Et que celui ou celle qui vit une vie peut-être complètement cachée, double, puisse réaliser ton amour et s'approcher de toi avec repentance, avec pardon, dire: Seigneur, je veux plus continuer dans cette voie-là. Je veux être porté dans l'océan de ta présence et de ton amour. Seigneur, nous sommes tous des êtres pécheurs, imparfaits. Nous crions à ton aide, Seigneur. Et oui, ton nom est si merveilleux. Parce que nous voulons sortir de ce lieu, Seigneur, non pas avec le poids du légalisme, le poids du moralisme, le poids de nos propres exigences familiales ou traditionnelles ou quoi que ce soit. Mais nous voulons sortir de ce lieu avec une vie nouvelle, avec une optique nouvelle, avec ta vérité, avec cette grâce qui nous porte. Cette grâce qui nous donne tout gratuitement. Et nous nous attendons à porter beaucoup de fruits, un fruit exemplaire, un fruit qui te reflète. Merci de continuer à porter ton Église, Seigneur Jésus. Ton nom est si merveilleux. Merci pour cette liberté en toi. Et pardonne-nous pour ce manque d'amour qu'on peut avoir parfois les uns pour les autres. Donne-nous d'aimer notre prochain, d'écouter comme toi tu nous écoutes, d'aimer comme toi tu aimes. Une extension de qui tu es. Amen. Amen. Yes. Merci pour votre patience, votre écoute. Je cède la place pour les annonces.
Merci à notre Dieu pour qui il est et pour le plan qu'il a de tout temps défini. Je partage avec vous les annonces du programme déjà, que vous découvrirez à l'écran. Alors mardi, c'est la réunion de prière à l'église ici. Moi, je vous encourage vraiment à venir parce que la réunion de prière à l'église, c'est vivre ensemble, nous ensemble, la relation personnelle et individuelle qu'on a chacun avec notre Dieu. Et ça, c'est chouette parce qu'il n'y a qu'à l'église qu'on peut le vivre ensemble. Individuellement, bien sûr, on le vit à la maison, dans la voiture, partout. Mais ensemble, c'est hyper important de le vivre ensemble. Dimanche prochain, notre culte, c'est un culte de cinquième dimanche. Alors nous, on ne va pas faire comme le groupe de jeunes. C'est un culte de cinquième dimanche, on le fait le cinquième dimanche. Et c'est un culte donc de témoignage. Alors je vous invite à y réfléchir, à vous préparer. C'est important aussi de partager ce qu'on vit avec notre Dieu pour se rappeler aussi quelle grandeur il a, quelle est la grandeur de notre Dieu et de voir aussi qu'est-ce qu'il fait dans les vies des autres. Et puis ce sera aussi, donc, on a l'habitude aussi, une bonne habitude, de partager le repas ensemble après le culte du cinquième dimanche, après le culte de témoignage. Alors prévoyez aussi de quoi partager pour vivre ce temps de repas aussi ensemble. Oui, Nancy ?
Juste rappeler pour dimanche que c'est les enfants qui vous apporteront le moment de louange, le moment de réflexion, justement sur ce que Dieu a fait pour eux ou qu'est-ce que Dieu fait dans leur vie. Qui va, je pense, aller avec la suite.
Ouais. Merci, c'est vrai, ce sont les enfants qui vont gérer la première partie donc, du culte. Laure voulait nous faire une annonce. Elle a des idées, Laure. Et elle veut nous les partager.
Bonjour à tous. Moi, j'ai à cœur d'ouvrir un groupe de célibataires. Donc, ça comprend les divorcés, ça comprend les veufs. Et j'ai demandé la permission aux anciens de pouvoir le faire dans le cadre du cinquième dimanche, donc dimanche qui vient. Ils ont accepté. Donc si vous connaissez, déjà vous pouvez prier pour cela, hein, parce que je ne veux pas le faire sans Dieu, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on invite tous les célibataires qui sont chrétiens. Tous sont bienvenus, à partir de 18 ans et plus. Et donc, dans le cinquième dimanche, je les ai invités à venir et à partager le repas avec nous. Et on aura une table uniquement pour les célibataires. Réservée à nous. Donc, si vous connaissez des gens qui se sentent seuls, qui recherchent même l'amour, vous pouvez leur faire la publicité. Et puis, c'est mieux de s'inscrire. Comme ça, je peux déjà préparer la table à l'avance, savoir s'il faut une grande table, une petite table. Donc, vous pouvez leur donner mes coordonnées, si jamais. Merci. Voilà.
Je vous rappelle la rencontre samedi prochain à Yverdon, la rencontre de portes ouvertes. Si vous voulez plus de renseignements, il y a un flyer qui est sur le tableau au fond. Donc c'est une rencontre qui commence à 14h et je crois qu'il finit à 21h30 avec un film et tout. Il y a plein de trucs intéressants. Enfin voilà, je vous laisse jeter un coup d'œil au flyer. Alors vous l'avez certainement remarqué, en ce début d'année scolaire, de nouvelles et belles dynamiques se mettent en place dans l'Église. Et en même temps, dans plusieurs types d'activités. Je pense qu'il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Alors, en même temps, le Conseil a décidé de booster les rencontres des aînés. Alors, c'est peut-être plus facile de booster les jeunes que les aînés. Je ne sais pas, on verra. Alors, je ne vous en dis pas plus. La seule chose que je rajoute quand même, c'est que maintenant seront concernés tous les retraités. Voilà, donc vous qui vous sentez concernés, je ne vous en dis pas plus, mais vous serez prochainement contactés. Et donc, il y a quelque chose qui sera proposé spécifiquement pour les personnes à la retraite. Ça a déjà été fait, mais je vous rappelle les inscriptions pour le repas du groupe de jeunes.
Philippe, ouais. Peut-être préciser que l'ancienne...
Oui, voilà, l'ancienne formule va s'arrêter, sera donc remplacée par la première. Donc les anciennes rencontres des aînés seront remplacées par ce qu'on pourra, je ne sais pas, il n'y a pas encore de nom, par les rencontres des retraités. Ou, enfin voilà, quoi. C'est pas terrible, hein, donc il faut y réfléchir, il faudra trouver un nom qui soit... voilà. Bon, les propositions sont les bienvenues. Je reviens à l'inscription pour le repas du groupe de jeunes. Il y a un tableau, une feuille au fond. Inscrivez-vous parce que dans 2 semaines, ce sera trop tard, ce sera déjà passé. Et pour l'instant, il n'y a que 2 lignes qui sont remplies, dont les deux Lafointe. Sinon, dans les autres... Oui.
Juste, je reviens à dimanche prochain. Oui. Pour les parents, 9h15, s'il vous plaît, pour les enfants.
9h15, pour les enfants qui vont donc participer. Alors, ouais, ok. Je vous rappelle les autres informations qui concernent le calendrier un petit peu plus loin. Donc, explosion de louanges qui aura lieu le 6 octobre à 17h à l'église adventiste de Mury. 6 octobre à 17h, je crois qu'il y a des flyers au fond que Jacques a amené ce matin, voilà, qui sont sur le petit meuble au fond. Le marché de Noël, et oui, on y sera bientôt, hein, du 30 novembre au 2 décembre, donc devant le parvis de la mairie. Notre fête de Noël le samedi 8 décembre. Voilà. Hier, il y a eu des travaux ici. On ne le remarque pas trop. On le remarque même très, très peu. Et c'est grâce à une équipe de nettoyage hyper costaud, parce que c'était vraiment plein de poussière. Bravo. Merci. Donc hier, on a commencé la préparation des encadrements de fenêtres pour les remplacer, donc dans la partie école du dimanche, la partie qui est derrière la salle de culte. Il y a encore du boulot. Samedi prochain, on continue, on va démonter les doublages de façon à ce qu'on puisse améliorer l'isolation, et puis on va préparer aussi les murs pour recevoir les nouvelles fenêtres. Donc les anciennes fenêtres ont été posées provisoirement à l'extérieur des murs, elles sont verrouillées, on ne peut plus les ouvrir parce qu'il faut fermer le bâtiment. Et puis, bien sûr, c'est provisoire parce que c'est jusqu'à début novembre où les nouvelles fenêtres seront posées. Par contre, samedi prochain, on va bosser de 7h30 à midi. On a besoin, je pense, de 3 personnes pour nous donner le coup de main, 3 ou 4. Alors, c'est important aussi qu'il y ait des aides parce que l'équipe de base, sinon, elle se fatigue à long terme. Donc venez m'informer si vous voulez venir, qu'on sache un petit peu qui c'est qui sera là. Et puis on aura besoin aussi de plusieurs personnes pour le nettoyage l'après-midi. Donc là aussi, faites-nous signe de façon à ce qu'on puisse s'organiser. Je vous rappelle aussi les inscriptions pour le thé café. Parce que donc voilà, il y a encore de la place. Donc inscrivez-vous. Continuons de penser à ceux qui souffrent aussi dans leur santé. Nelly de la Tate, qui était tombée il y a une dizaine de jours, va mieux, elle se remet doucement, elle commence à se déplacer chez elle, mais voilà, il y a encore des contusions, c'est pas encore tout fini. Tante Hélène a été aussi hospitalisée en fin de semaine suite à un malaise, à un mal-être, disons. Donc pensons à elle, je crois qu'elle est à Saint-Julien, hein, ouais. Pensons à elle, prions pour elle aussi, remettons-la à notre Dieu. Continuons de penser aussi à Georges, qui n'était pas encore assez bien pour venir au culte. Voilà, pour que Georges ne vienne pas au culte, il faut qu'il ne soit pas bien. Donc voilà, continuons de penser à lui, peut-être un téléphone, une visite, ça peut aussi faire du bien. Est-ce qu'une annonce... Oui.
Ok. Donc elle pense qu'elle
ne
va pas rester longtemps, mais
bon,
elle a un peu un
bilan
de santé.
Ouais.
Saint-Julien.
Saint-Julien, oui. Ouais. Merci. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Hébreux. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.